préciser, bien que ce soit assez difficile, l'espèce de dialectique très particulière du temps, de la temporalité, dans ce petit poème japonais qu'on appelle le haïku. À ce sujet, je voudrais terminer ce paragraphe sur l'instant par une remarque qui serait que tout cela montre en quelque sorte que le haïku, si je puis dire, marche sur la corde raide du temps. Naturellement, cette espèce de jeu sur le temps, sur la temporalité, sur l'instant, qui est à la fois immobile et mouvant, etc., pour rappeler les contradictions que j'ai indiquées, ce jeu n'est possible que parce qu'il est sans doute préparé et déterminé par un concept proprement japonais, dont j'ai parlé à plusieurs reprises, concept qui n'existe pas chez nous, puisqu'il n'y a pas de mot pour cela chez nous, c'est ce qu'on appelle en japonais, matondi bien sûr, le ma, ma. Le ma qui renvoie, disons grossièrement, non pas aux catégories kantiennes du temps et de l'espace, comme chez nous, nous avons une catégorie du temps, une catégorie de l'espace, mais ces catégories ne semblent pas bien exister en japonais, dans la mentalité japonaise, et à la place, il y a évidemment une catégorie plus subtile, parce que essentiellement relationnelle, qui est la notion d'intervalle, d'espacement, d'intervalle, soit de temps, soit d'espace, c'est la même chose, et c'est cette catégorie, cet espacement qu'on appelle le ma, et je vous rappelle, une fois de plus, qu'il y a eu, à la fin de l'année dernière, une exposition aux arts décoratifs sur cette notion du ma japonais. Et parmi les figures ou les variations du ma, il y en a deux, particulièrement, qui me semblent nourrir sans cesse le haïku. La première, ce serait ce qu'on appelle en japonais, paraît-il, yami, Y-A-M-I. Je ne traduis pas, bien sûr, j'en serais incapable. Je donne une sorte de paraphrase de ce que j'ai pu comprendre être le yami. Le yami, c'est ce qui renvoie à tout ce qui clignote. C'est qu'il y a une notion d'intervalle, d'espacement, pas le clignotement. Un intervalle extrêmement rapidement répété. Par exemple, tout ce qui sort de la pénombre, un bref moment, et y rentre ensuite. Et le yami, par exemple, ça peut s'appliquer à un épisode codé, je dirais presque rituel du no japonais, de ce théâtre très ancien qu'on appelle le no. Dans le no, les acteurs arrivent du monde des morts, c'est-à-dire la coulisse, il faut bien dire les choses comme elles sont. Les acteurs arrivent du monde des morts par un pont. Ils jouent sur la scène des vivants, devant nous, scène qui est éclairée. Et ensuite, ils rentrent dans l'ombre par le même pont. Et ça, c'est yami, c'est cette espèce de clignotement entre deux ombres. Et yami, ce pourrait être peut-être au fond la meilleure définition de la beauté, une scintillation entre deux morts. La seconde notion, donc yami, se trouve effectivement très souvent impliquée par la temporalité du haïku. La seconde notion qui fait partie aussi du ma, et qui est très fréquente, je pense, dans le haïku, c'est la notion qu'on désigne par le mot utsuroi, U-T-S-U-R-O-I, utsuroi. Utsuroi, ça serait ce moment extrêmement fragile, c'est toujours les mêmes notions, hein, qui sépare et qui joint deux états d'une chose. On peut dire le moment très bref quand l'âme a quitté une chose et reste suspendue dans le vide, avant d'en réintégrer une autre. Ou peut-être, si nous voulons ne pas être métaphysique, mais être plutôt nominaliste, le moment où une chose peut-être est entre deux noms. Bah, l'âme quitte un nom, mais avant d'en retrouver un autre, il y a un moment de suspension presque asymptotique, qui est le Utsuroi. Et on dit, par exemple, que pour les Japonais, dont vous savez combien leur importe pratiquement quotidiennement et aussi rituellement la floraison des cerisiers au printemps, eh bien, on dit que pour les Japonais, ça n'est pas à proprement parler la fleur de cerisier qui est belle, c'est le moment où, parfaitement belle et épanouie, elle va faner. Donc, la beauté est dans la perception, je dirais presque sensuelle, d'un futur imminent. Et tout ceci dit combien le haïku est une action d'écriture, c'est un acte d'écriture, une action d'écriture, je dirais presque un writing action, entre la vie et la mort. Voilà donc pour ce groupe de réflexion sur l'instant. Voici maintenant un second groupe de réflexion, je n'ose pas parler de chapitre vraiment, autour d'une notion pour laquelle malheureusement nous avons déjà eu affaire à ce problème, je crois, à propos du neutre. Il n'y a pas de bon mot en français et je suis obligé de recourir à un mot grec, a été francisé d'une façon extrêmement péjorative, ce qui fait beaucoup d'ambiguïté, mais je n'ai pas d'autre moyen. C'est le mot de pathos. Et il va de soi que j'emploie ce mot sans connotation particulière, surtout dépréciative. Je l'emploie au sens grec, d'ailleurs souvent repris par Nietzsche, tout ce qui est, disons, de l'ordre de l'affect. Je ne peux pas dire de la passion, bien que ça soit le sens étymologique, de pathos, pathé au pluriel, ce qu'on subit, ce par quoi on est affecté, disons l'affect. Donc, un groupe de réflexion concernant le haïku et l'affect. On pourrait dire aussi l'émotion, mais émotion est un mot très fort en français. J'aimerais mieux dire émoi, émoi et émoi. Ça fait un peu vieillot, romance, et moi amoureux, après tout c'est peut-être ça. Je dirais ému, l'ému, en faisant de ému un substantif, la catégorie de l'ému. Alors pour en parler, je vais partir d'une notion alors extrêmement banale dans notre terminologie, qui est celle de perception. Le haïku, donc, comme écriture de la perception. Vous savez que malheureusement, chez nous, nous sommes toujours condamnés à subir la connotation culturelle des mots. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est très difficile de parler. En tout cas, c'est pour ça qu'il faut lutter en parlant. Je dirais, c'est pour ça qu'il faut écrire. C'est en cela que consiste l'écriture, en une sorte de combat, souvent extrêmement rusé, avec les connotations culturelles des mots qui nous sont imposés. Or, chez nous, perception a, je dirais, une odeur, une connotation, c'est une odeur, finalement, une odeur de mots. Je parle pour moi, je dirais, considérant ma génération, le mot perception avait une odeur de classe de philosophie. Puisqu'on étudiait la perception en classe de philosophie, je suppose maintenant qu'il y a des UV de perception, ou en tout cas de psychologie expérimentale, n'est-ce pas? La perception, effectivement, pendant très longtemps, a été tirée chez nous vers la psychologie expérimentale, vers les tests, etc. Et ça n'est que au moment de la grande flambée, malheureusement sans lendemain, de la phénoménologie, il y a donc 25-30 ans, que le mot perception a quitté le champ de la psychologie expérimentale pour essayer d'intégrer un autre champ qui a été le champ phénoménologique, surtout dans les travaux de Merleau-Ponty. Depuis, je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas comment est senti le mot perception. De quelle science est-ce que ça relève? Je ne sais pas. Alors, je préférerais donc à cette connotation donner au phénomène perceptif un style, disons, plutôt zen, une hérédité zen. Dans le bouddhisme zen, il y a, dans la littérature apparentée au bouddhisme zen, il y a des stances de poèmes, appelées ge, g-e, ou gatha, g-a-t-h-a, et ces stances sont chargées de dire ce que le sujet a perçu ou éprouvé au moment où, comme on dit, l'œil mental s'est ouvert. C'est le phénomène que j'ai appelé souvent le satori, soit l'éveil, la secousse mentale. Eh bien, au moment où le satori se produit, ou un satori se produit, il y a une définition possible de la perception. Qu'est-ce qu'on perçoit à ce moment-là? Et visiblement, ce qu'on perçoit dans au moment du satori, et qui fait l'objet de ces stances, de ces gathas, c'est quelque chose d'ultra simple. Enfin, c'est par exemple les bambous, la brise rafraîchissante, rien de plus. Et gatha, il y a cette phrase, cette formule qui est vraiment la définition exemplaire de l'incident à Aetis, quelque chose tomba, point d'exclamation, ce n'est pas autre chose. Quelque chose d'en bas, ça n'est pas autre chose. Donc, en effet, la perception du haïku, c'est ce qui tombe, ce qui fait pluie, et cependant, n'est pas autre chose. Ce qui tombe, eh bien, nous avons en français, en tout cas dans l'angle romane, un mot qui veut dire ce qui tombe, et je pense que je reprendrai ce mot à la vers la conclusion de ce cours, c'est-à-dire dans 5 séances, c'est le mot incident. Incident, un incident, étymologiquement, c'est ce qui tombe. Ce qui tombe sur. Alors, je dirais, pour préciser ce thème de la perception, que, en ce qui me concerne, depuis très longtemps, je le vois parfois en jetant un coup d'œil par la porte des choses sur les textes que j'ai écrits autrefois, depuis très longtemps, j'ai été sensible et très sensible à la présence dans un texte narratif ou dans un texte, disons, intellectuel, de mots ayant pour référent des choses concrètes, des objets qu'on pourrait toucher, des objets sensuels. Et c'est pour ça que je propose de donner à ces mots un nom latin pour pouvoir les manier, des tangibilia, c'est-à-dire des choses qu'on peut toucher, pas neutre pluriel. Je suis très sensible justement dans un texte à ce que j'appelle le passage des objets sensuels dans le texte. Or, en fait, si on étudie, ça serait peut-être un objet logique, c'est-à-dire pourquoi pas, troisième cycle par exemple, en plus. Si on étudie les textes classiques de notre histoire littéraire ou philosophique, on s'aperçoit que ce passage des objets sensuels a été plus ou moins marqué selon les époques. Par exemple, si vous prenez un grand roman comme les Liaisons dangereuses, je crois pouvoir dire que vous verrez passer dans les Liaisons dangereuses très peu d'objets sensuels, de tangibilia, pas, ça reste abstrait, c'est très aigu, c'est très poignant, c'est tout ce que vous voulez, mais il ne passe pas d'objets proprement sensuels. Parfois un billet caché dans une harpe pour communiquer entre deux personnages, c'est le seul objet sensuel qu'on voit passer. Et bien entendu, dans les textes philosophiques, il y a aussi, il y avait fort peu d'objets sensuels. Et les objets sensuels ne commencent à apparaître dans les textes probablement que, enfin, je dis grosso modo à première vue, qu'avec le romantisme, ou le pré-romantisme, puisque j'ai bien marqué que dans La vie de Rancé de Chateaubriand, par exemple, dans un texte conçu à des fins absolument édifiantes et spiritualistes, il passe, d'ailleurs d'une façon admirable, ce que j'appelle des objets sensuels, des objets qui courent, des gants, des orangers, enfin des tangibles. Et personnellement, si j'écrivais exactement comme je voudrais écrire, je ferais passer très souvent des objets sensuels dans ce que j'écris. Alors, dans le haïku, on peut dire peut-être que dans chaque haïku, il y a toujours au moins un objet sensuel, un tangibile. Dans les exemples, comme toujours, c'est ma liste, n'est-ce pas? C'est le haïku numéro 19, mais enfin, on pourrait en donner bien d'autres. Les fleurs de verveine blanche, aussi en pleine nuit, aussi en pleine nuit, la voie lactée. La verveine blanche. Voilà un tangibilé. Bon, alors, la verveine blanche, voilà l'exemple même d'un tangibilé, d'un objet sensuel et d'un objet d'une très belle sensualité, puisque du point de vue référentiel, il a une forme, c'est une fleur, il a une odeur et il a une couleur. Alors, pour saisir la spécificité de ces objets sensuels, de ces tangibilia dans le haïku, il faudrait faire une fois de plus, disons, une sorte d'épreuve de commutation avec des formulations poétiques occidentales qui sont proches du haïku, mais qui précisément n'en sont pas très souvent parce que manque l'objet sensuel. Par exemple, lorsque Lamartine écrit « Mémoire qui revient pendant les nuits pensives », c'est très beau, « Mémoire qui revient pendant les nuits pensives », il y a ici une sorte de sentiment haïkiste. Hein? C'est très proche d'un haïku, de ce qu'on appellerait en japonais le sentiment sabi, S-A-B-I, c'est-à-dire la pensivité de ce qui passe. Mais précisément, à mon sens, il manque un tangibilé, et par conséquent, cela reste en quelque sorte psychologique. Quand Malherbe écrit « Que d'épine amour accompagne tes roses », que d'épine amour accompagne tes roses, vous allez me dire qu'il y a deux tangibilia notables, les épines et les roses. Mais en fait, non, parce que c'est une formule finalement purement gnomique, c'est une maxime, et le concret n'est là que comme emblème. Tandis que dans le haïku, il y a du symbolique, sans doute, il y en a toujours, il n'y aurait pas d'écriture sans symbolique, mais il n'y a pas d'emblématique dans le haïku. Tandis que chez nous, il y a tout de suite, très vite, des emblèmes, les roses, les épines. Et de plus, ces deux tangibilia sont ici extrêmement stéréotypés et éculés. Et le concret de la rose, le concret de l'épine, s'est évaporé. Tandis que dans les haïkus, les tangibilia, en général, procurent toujours, ou presque toujours, une impression de fraîcheur et donc de force. La verveine blanche, c'est de même mieux que les roses et les épines. Alors, quand le tangibilé passe dans ces trois vers, eh bien, c'est comme une sorte de flash du référent, de l'objet dont on parle, enfin, du référent. C'est une sorte de vision subliminaire. Le mot, la verveine blanche, par exemple, fait voir très rapidement la verveine blanche et en même temps, il l'évanouit, évidemment. C'est la fonction du mot, pas bien marqué par Mallarmé, mot poétique qui fait voir et évanouit en même temps, la fleur absente de tout bouquet. Je dis fleur, etc., absente de tout bouquet. Alors, la verveine blanche, effectivement, d'une part, on la fait voir, mais d'autre part, parce qu'elle est confiée à l'ordre du langage, elle est absentée. Et ça, c'est toujours en rapport un peu, n'est-ce pas, avec le mât, l'espace-temps, la contradiction du temps, le clignotement, le utsuroi, n'est-ce pas, le fait que la verveine blanche passe dans notre conscience sensuelle, dans notre sentiment corporel, qui peut sentir et qui peut voir, mais en même temps, ça clignote, ça part immédiatement. Alors, dans la rhétorique classique, il y avait une figure, n'est-ce pas, qui était chargé de pointer tous les passages de discours où l'écrivain fait voir quelque chose, fait voir une scène, par exemple. Cette figure, qui est, je crois, très importante, peut être aussi importante quant au discours que la métaphore et la métonymie l'ont été dans un temps maintenant qui paraît très lointain, pour la linguistique elle-même. Donc, une cette figure, c'est l'hypotypose. Hypotypose. Hypo et typose, T-Y-P-O-S-E. L'hypotypose, c'est une figure de discours par où l'auteur fait voir avec acuité, avec violence, avec netteté, quelque chose, une scène. L'exemple classique de l'hypotypose dans la littérature classique, c'est ce passage de l'Andromaque de Racine, où Andromaque dit, je ne sais pas les vers par cœur, « Songe, s'épuise, songe, etc. » Et elle lui fait voir, n'est-ce pas, Pyrrhus dans l'incendie de Troie, etc. Enfin, il y a une douzaine de vers qui constituent une hypotypose, parce que il y a tout d'un coup une scène très violente qui nous vient devant les yeux. Eh bien, les tangibilia du haïku ne sont pas certes violents comme le sont ces fils, mais ce sont des sortes de micro-hypotyposes, de petites hypotyposes qui font voir. Et par conséquent, on pourrait dire peut-être qu'il y a dans le haïku comme un germe, une virtualité extrêmement discrète et ténue de fantasme. Si on veut bien retenir toujours la définition canonique du fantasme, canonique parce qu'elle est donnée dans le Laplanche et Fontanis, qui est le fantasme, qui est, disons, un scénario bref et encadré, un scénario mental, bref, encadré, cerné, où je me mets, moi, sujet, en état de désir et de plaisir projeté. C'est-à-dire que dans le fantasme, le « je » est toujours présent, et le « je » est présent en tant que désirant et que s'assurant par ce scénario mental un plaisir. Eh bien, il y a des hypotyposes fantasmes dans le haïku. On pourrait revenir à des exemples occidentaux, et je dirais qu'un type d'hypotypose à l'occidental, c'est-à-dire pas sous forme de haïku, et donc sous forme beaucoup plus développée, peut se trouver dans des textes occidentaux. Par exemple, le fantasme du « à l'abri pendant l'hiver ».« À l'abri pendant l'hiver ». Et une fois de plus, ce fantasme est très bien mis en scène dans Les plaisirs de l'opium de Queen C. Je ne sais pas si je vous ai pas lu déjà un passage de ce fantasme. Assurément, chacun au coin du feu en hiver, les lumières allumées à 4 heures, les tapis du foyer bien chauds, une jolie main pour servir le thé, les volets fermés, les rideaux tombant à gros plis sur le plancher, pendant que la pluie et le vent font rage et bruissent au dehors. Voilà une petite pause. Voilà un fantasme, je me mets dans le scénario, j'organise le scénario mentalement, je me mets dedans à titre de sujet jouissant, et naturellement, je fais passer beaucoup de tangibilia, pas les lumières, 4 heures même, c'est très précis, les tapis, la jolie main, le thé, les volets, les rideaux, le plancher, la pluie, le vent, etc. Il y a beaucoup, beaucoup, il y a tout un foisonnement d'objets sensuels qui passent dans la scène. Or, le haïku, probablement, comporte souvent, soit explicitement, soit secrètement, comporte pour moi, il faut toujours dire cela, quelques-uns de ces fantasmes prospectifs. Par exemple, pour moi, tout ça c'est subjectif, je n'ai pas besoin de le répéter, le 21, c'est un fantasme. Lune d'automne, alors j'ouvrirai sur le pupitre des textes anciens. Eh bien, c'est un fantasme que je connais bien, qui est travailler des textes classiques, sans l'agression de la modernité, au chaud l'hiver. Il y a que c'est très facile à faire. Pas tellement, parce que il faut... Voilà, la principale difficulté est d'ordre moral, il faut accepter de travailler des textes classiques. Et ça, ça peut poser un problème. Est-ce qu'on peut encore travailler des textes classiques? Nous verrons l'année prochaine. Bon, il y a aussi un autre fantasme qui m'est mordre, qui est le fantasme de la retraite rustique, qui est quelque chose que j'éprouve très souvent, qui est le haïku numéro 22. Petite porte en treillage, fleur dans un pot, cabane de la paix. C'est extrêmement simple, mais il y a des moments où on peut désirer violemment cette sorte de petite scène, de petit scénario. Alors évidemment, dans les haïkus eux-mêmes, il y a des différences de qualité qui tiennent souvent à la force ou à la carence de l'hypotypose, c'est-à-dire de la scène vivement représentée, des tangibilia. Par exemple, le 23, je vais vous en donner deux. Le 23 et le 24, et je vais vous dire ce que j'en pense. Le 23 dit, c'est un haïku moderne, il dit, jour de l'an, le bureau et les papiers sont tels que l'an passé. Jour de l'an. Le bureau et les papiers sont tels que l'an passé. Alors, d'abord, ça paraît tout à fait banal. Mais ensuite, ça m'a paru tout à fait banal. Ce qui d'ailleurs ne me décourage jamais en ce qui concerne le haïku. Et puis, je me suis dit au fond que personnellement, j'aurais très bien pu noter cela. Si j'étais un haïkiste. Ou faire une petite fiche là-dessus. Mais je n'oserais pas, justement, parce que c'est trop banal, c'est ça le problème. Mais j'aurais pu tout de même, en triomphant de la banalité, noter cela, je dirais, un matin du jour de l'an, en pensant fortement que c'est le jour de l'an, en activant en moi ce que j'appelle le petit symbolisme, qui me fait très attentif et rêveur et troublé devant les anniversaires. J'ai toujours une vive attention à tous les anniversaires. C'est ce que j'appelle une activité de petit symbolisme. Je ne pourrais pas, par exemple, passer le jour de l'an, ou même le passage de minuit de 31 décembre au 1er janvier, sans penser très fortement que je suis en train de passer entre deux années. Enfin, je ne pourrais pas banaliser ce passage. C'est ce que j'appelle donc une activité symbolique, mais petitement. Et donc, j'aurais très bien pu imaginer de noter ça en me levant le matin, un matin de 1er janvier, et je pourrais très bien me voir, c'est ça l'hypothèse, songe, c'est puis songe, je peux me voir, allant assez tôt, quand tout dort après le réveillon, mais moi me levant plus tôt, et allant à ma table de travail, voyant mes papiers de la veille, et constatant, jour de l'an, le bureau et les papiers sont tels que l'an passé. Et à ce moment-là, le haïku aurait véritablement un sens existentiel pour moi. Tandis que, Si j'écris, comme dans le haïku 24, aube du nouvel an, le jour d'hier, comme il est loin, aube du nouvel an, le jour d'hier, comme il est loin, eh bien, ça reste extrêmement banal, ça n'a aucun intérêt, ça ne prend pas, ça ne mord pas sur moi. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de tangibilité, il n'y a pas d'objet, il n'y a pas de bureau, il n'y a pas de papier. Et c'est pour cela que le haïku est raté, à mon sens. Et que, si vous voulez, cette espèce de petit incendie, ce micro-incendie mental qui est l'hypothypose, la représentation de la scène, est raté. Voilà, il faut maintenant, bien sûr, avancer un petit peu dans la dialectique ou les redans de la perception. Et je vais indiquer, entre autres, trois traitements un peu complexes de la perception haïkiste, qui, bien entendu, pourraient être pratiqués dans d'autres types de poésie. Premier traitement parmi d'autres, c'est ce que j'appellerais la technique du son coupé. Le haïku a en principe une force de vision, de tableau, c'est l'hypothèse. Et on pourrait souvent penser à de courtes séquences filmées. Mais il y a parfois un charme supplémentaire et surprenant si on a la sensation qu'il s'agit d'une séquence filmée, mais dont le son a été coupé. Et alors à ce moment-là, dans la vision, il y a quelque chose de bizarrement gommé, interrompu et incomplet. Par exemple, dans le 25, moi, j'entends, si je puis dire, un son coupé. C'est pour ça que c'est beau. Route sur la lande d'automne, quelqu'un vient derrière moi. Je sens une sorte de silence. Et ce n'est pas dit, bien sûr, mais personnellement, j'entends le haïku comme ça. Comme si il y avait une sorte de perception globale, mais sans son. Et dans le 26, poussant leur charrette, l'homme et la femme se disent quelque chose. Là, le son coupé est noté et il fait la pointe, le satori. Je dirais de là à imaginer, une fois de plus, tout ce que nous a fait perdre l'abandon du cinéma muet. Et on ne sera jamais assez désolé de ce progrès, même s'il est complètement vain à tous les niveaux de se désoler. On peut penser tout de même avec nostalgie, car après tout, on pourrait penser aussi l'histoire des arts comme une série de choses justes et de choses erronées. L'histoire n'a pas toujours raison. Et il se peut très bien que dans l'avancée des arts, il y ait des erreurs, il y ait des impasses ou des erreurs, des fausses directions. Le progrès peut se tromper, et l'avant-garde aussi peut se tromper. Et probablement, peut-être que quand on a abandonné le cinéma muet, on a abandonné quelque chose d'important. Quelque chose d'important parce que quelque chose de spécifique, d'eidétique. Mais on reverra tout ça parce que je parlerai bientôt dans deux séances de la photographie. Donc, le son coupé, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas le silence, qui ne signifie pas le silence, car le silence est toujours lui-même très signifiant, mais justement, différence subtile, la parole au loin, le son coupé, la parole au loin, présente et effacée, qui est là, sous un gommage, inaudible, sans que ce soit par confusion, brouillage ou voix. C'est-à-dire l'inaudible pur, qui ne provient pas d'un bruit. L'inaudible qu'on entend, entendre l'inaudible. L'inaudible muet, sourd et muet. Et après tout, on pourrait dire que c'est cela l'image. L'image, elle est toujours muette, mais elle est muette avec force. Ça ne sert à rien de dire qu'elle est muette, il faut dire qu'elle l'est avec force. Enfin, quand elle est réussie. Deuxième traitement, donc premier leçon coupée, deuxième, ce que j'appellerais le problème de un art pour un autre. C'est un schéma classique que une perception par un sens amène une sensation typique, n'est-ce pas? Un son amène la musique, etc. Or, le haïku peut faire des détournements de circuits, des branchements fautifs, c'est-à-dire qu'un son va amener, par exemple, une sensation de tact, quelque chose de sonore, d'auditif, va amener une sensation de tact, de chaleur ou de froid. C'est une sorte de métonymie hétérogène et hérétique, par exemple, 27, très classique. Le bruit d'un rat griffant une assiette, que c'est froid. Ou bien l'odorat par la vue, ici peut-être un peu plus subtil, c'est le 28. Soir d'été, poussière des chemins, feu doré d'herbe sèche. Pas sans le feu d'herbe, mais ce qui est donné, c'est une vision. C'est le feu doré. Alors, chose curieuse, le seul haïku, si je puis dire, que j'ai trouvé en français, est précisément de cet ordre des métonymies hétéronomes de sensations. Mais ce qui est plus curieux, c'est que ce seul haïku que j'ai trouvé en français et a été fait, par titre de haïku d'ailleurs, par un auteur qui a une réputation d'être actuellement très peu poétique, qui ne fait pas partie de l'horizon actuel de la poésie, qui est Valéry. Valéry a écrit ceci, qui est un haïku parfait. L'insecte net gratte la sécheresse. L'insecte net gratte la sécheresse. Eh bien, si Valéry a pu produire cette sorte de petit haïku, c'est sans doute parce que c'est un procédé qui est conforme à la théorie symboliste, puisque la poésie de Valéry, même si plus tardive, a son origine dans l'école symboliste. Et d'ailleurs, chez Proust aussi, vous avez une théorie de cette communication entre les arts, c'est-à-dire qu'on peut atteindre un art par un autre art. On peut atteindre la littérature ou le texte à partir de la peinture. J'insiste pas parce que je vais reprendre ça en détail un peu plus tard. Le troisième traitement perceptif et proche du second, du haïku, enfin possible dans le haïku, ce sont tous les phénomènes de synesthésie, S-Y, synesthésie. En effet, il s'agit d'un type de métonymie qui est bien connu de la poésie occidentale et dont précisément le symbolisme a été le champ d'expansion privilégié et qui a été théorisé, ce type de métonymie, par Baudelaire dans le sonnet célèbre sur les correspondances. Il est des parfums frais comme des chairs d'enfants, etc. Sous le métanon, précisément, de synesthésie. S-Y, synesthésie. Le fait de sentir plusieurs choses en même temps, c'est-à-dire plusieurs perceptions, plusieurs sens en même temps, différent donc de la synesthésie, qui est l'espèce de sentiment global et obscur que le corps a de lui-même, indépendamment des sens. Mais je dirais que paradoxalement, le haïku, qui est pourtant un art ténu du ténu, ne détaille pas et n'isole pas les homologies de sensations. C'est-à-dire que sa portée est de produire une sensation globale au sein de laquelle le corps sensuel s'indifférencie. C'est donc une visée plus euphorique qu'analytique. Pas quand Baudelaire dit « il est des parfums frais comme des chers enfants », il y a une discursivité analytique, il analyse, tandis que le haïku a une idée essentiellement euphorisante. Par exemple, en 29, « sentier de la montagne, pluriel, crépuscule sur les cèdres roses, cloche lointaine. Eh bien, il y a ici, pas restitué donc en 5-7-5, une sorte de bonheur diffus, c'est comme ça qu'on sent, de volupté générale, qui est proche peut-être de ce que Fourier, Charles, appelait le sixième sens. Le sixième sens pour Fourier, c'est très beau d'ailleurs, ça devrait être repris, le sixième sens, c'est le sens sensuel. C'est le sens, je dirais, malheureusement, le mot est très dangereux sur le plan d'interprétation. C'est le sens érotique, mais pas génital. Pas forcément, pas, c'est pas le sens génésique. C'est le sens sensuel. Peut-être que l'écrivain français qui a pratiqué le mieux la synesthésie, mais cet écrivain n'a rien de haïkiste, bien qu'il en parle beaucoup de temps ici, ce serait Proust. Et je dirais que s'il m'est permis de faire de temps en temps, ici, référence à des expériences personnelles, cette euphorie, ce bonheur synesthésique dont je parle, est lié pour moi à deux thèmes. Le premier, c'est ce que j'appelle la surdétermination des plaisirs. Il se produit, en ce qui me concerne, cette sorte d'euphorie synesthésique, quand plusieurs plaisirs, menus, simples, s'additionnent en même temps, quand je les jouis, si je puis dire, simultanément. Et à tout instant, j'ai envie de noter, à tout instant non, parce que c'est malheureusement assez rare, mais dire chaque fois que ça se produit, j'ai toujours une pulsion à écrire cette surdétermination des plaisirs. J'avais noté, puisque de temps en temps, je me permets de vous faire part de notations déjà passées, d'ailleurs, parce que il s'agissait d'une notation à la campagne, toujours au mois de juillet, l'année 77, où, tel matin, le 18 juillet, j'avais éprouvé une sorte de bonheur, ça j'ai écrit, parce que il y avait plusieurs plaisirs qui s'additionnaient. Un peu comme dans ce mets italien, ces pâtes italiennes qu'on appelle des lasagnes. Et en moins mastoc. Et j'avais noté précisément qu'il y avait une sorte de bonheur parce qu'il y avait le temps qui était très beau, très léger. Il y avait la musique en même temps à la radio, c'était du Handel. J'avais pris, ce qui m'arrive extrêmement rarement, un peu d'amphétamine pour exciter le cerveau. Ah bon, vous avez l'air étonné, Jean-François. D'abord, c'est pas pris d'amphétamine, ça ne se vend pas comme ça en pharmacie. J'ai pris un médicament qui empêche d'avoir trop faim. Ne veut pas en rester. Donc, un médicament, tout ce qu'il y a de plus légal, qui s'appelle le Ténua. Et ensuite, l'amphétamine, d'abord, j'aurai un exemple magistral qui me dédouanerait et me permettrait d'en prendre beaucoup plus que je n'en prends, qui serait celui de Sartre, qui a écrit des œuvres considérables sous l'amphétamine. Et deuxièmement, l'amphétamine, personnellement, j'en prends un demi-comprimé toutes les 6 semaines, de moyenne, et encore. Et, n'est-ce pas, ça n'est pas du tout, bien entendu, que ça vous rende plus intelligent. Ça vous donne des idées. C'est que ça a une fonction extrêmement précise. Ça débloque le blocage de la page blanche. Au début. C'est-à-dire que tout ce moment qui fait qu'on perd souvent beaucoup de temps avant de travailler parce que on s'y met et puis on sèche, il y a la page blanche, c'est une chose bien connue, ça traîne, etc. Alors, de temps en temps, dans certaines conditions optimales, parce que il faut n'avoir rien d'autre à faire de toute la journée, il faut ne pas avoir mal à la tête au préalable, etc. On peut se permettre cette petite chose qui va économiser peut-être une demi-heure ou trois quarts d'heure de pavillon. Donc, le temps, la musique, un petit peu d'amphétamine, le café de 10h30, le café noir de 10h30 du matin, le cigare qui suit, une bonne plume pour écrire, et les bruits ménagers, c'est très important pour travailler, n'est-ce pas ? Pour moi, en tout cas, c'était très important qu'il y ait une espèce de background sonore très léger, quelques bruits ménagers, quelques bruits de la maison. Eh bien, tout ça fait une surdétermination du plaisir, et donc j'aurais pu presque en faire un haïku, si malheureusement le haïku m'interdisait en somme d'analyser la sensation. Et un deuxième thème lié à ce bonheur synesthésique, c'est la démultiplication, la possibilité de démultiplier et d'approfondir la nuance sensuelle. Et là, je cite encore une expérience personnelle qui est toujours de la même époque, et toujours donc à la campagne pendant l'été, où un jour, je me suis un peu endormi vers 6h de l'après-midi, c'était des jours d'été, c'est en juillet, sur mon lit, où j'avais fait une course après le déjeuner à la ville voisine, et j'étais un peu fatigué, et je me suis endormi vers 6h d'après-midi avec la fenêtre grande ouverte sur la fin, je dirais, un peu plus claire d'une journée grise. Et à ce moment-là, j'ai eu, en me réveillant bien sûr, une sorte d'euphorie de flottement, une sorte d'euphorie de dilution dont je me souviens très bien. Et ça n'a pas duré longtemps, mais c'était merveilleux. Et sans amphétamine, tout était liquide, aéré, et c'est là où j'ai trouvé le mot qui, pour moi, m'avait fait gagner la sensation, parce que quand on trouve un mot, il est gagné, tout était buvable. C'est-à-dire que je buvais l'air, je buvais le temps, je buvais le jardin. Tout était devenu buvable. Et comme j'étais précisément en train ces jours-là de lire un auteur zen d'ailleurs assez ennuyeux qui s'appelle Suzuki, il m'avait semblé que cette sorte de sentiment était proche de ce qu'on appelle en japonais le sabi. Voilà pour la perception. Deuxième thème, toujours dans le pathos, alors l'affect, proprement dit, l'émotion. Vous savez que Jules Renard a produit des notations brèves, très métaphoriques, à même la nature, c'est-à-dire en fait la campagne, dans, notamment, il y en a beaucoup dans son journal, qui a été publié dans la Pléiade, mais il y en a beaucoup dans les histoires naturelles, dont certaines ont été mises en musique par Ravel, et j'y reviendrai un autre jour. Et alors, à ce moment-là, à cette époque-là, en 1896, un journaliste avait écrit, je ne sais pas si je ne vous l'ai pas déjà dit, « Jules Renard est un Japonais, mais il est mieux encore, il est un Japonais ému. » Et réponse de Jules Renard, « Merci, j'accepte. C'est exact et ça vexera les Chinois. » Cette remarque du journaliste me paraît deux fois fausse. Parce que Jules Renard n'a absolument rien de japonais. Sa forme brève, je reviendrai là-dessus, sa forme brève a pour ressort la frappe, qu'on appelle la frappe, et la frappe est tout à fait contraire au haïku. Le haïku n'est jamais frappé, au contraire même. Et deuxièmement, en un sens, le japonais, ça serait tout à fait, ça me paraît tout à fait pléonastique de parler d'un japonais ému. Parce que le japonais est toujours ému. Mais, bien sûr, d'une émotion spécifique qui n'appartient qu'à lui. et une émotion qui est effectivement plutôt du côté de l'émoi, de l'ému, que de l'émotion. Ça n'est pas une émotion psychologique ou une émotion romantique. C'est une sorte de frémissement très contenu du corps-âme, de l'âme imprimée dans le corps, etc. Là, je voudrais parler un peu de ces Japonais, et s'il y en a ici dans la salle, ça arrive quelquefois, il faut qu'ils m'excusent parce que ça a quelque chose d'indélicat. C'est un peu en faire des objets, mais on ne pourrait pas parler, n'est-ce pas, si on ne faisait pas parfois des êtres. On ne transforme pas les êtres en objets. C'est difficile d'en parler. Il faut commencer parfois par les objectiver. Et de toute manière, pour les Japonais, il faut toujours se rappeler, quand on pense au Japon, à la loi ou le principe hegelien que la quantité transforme la qualité. Et par conséquent, il ne faut pas juger des Japonais par ceux qu'on voit sous forme de touristes à Paris. Non pas du tout qu'ils soient plus désagréables que d'autres, c'est pas ça que je veux dire. Mais vous pouvez avoir une sorte de perception, de préjugement du Japonais, de sa morphologie, de son comportement, de sa race, de sa vulgarité, etc. Quand vous envoyez dans le centre de Paris, n'est-ce pas, du côté de la Bulle d'Opéra, mais si vous débarquez au Japon, en une seconde, vous voyez alors là la quantité qui transforme entièrement le corps japonais. Ça n'est plus la même chose. Et si vous regardez les Japonais là-bas, si vous les voyez se rencontrer, se saluer, s'écouter, vous constaterez toujours que dans le lien social et affectif, si codé qu'il soit, si réservé qu'il soit, d'apparence si impassible, il y a toujours, vous pouvez toujours dire, une sorte d'émoi pulvérisé, en quelque sorte. Ce que j'appellerais un infra-affolement, un sous-affolement ténu, qui est d'ailleurs un peu de l'ordre de la politesse. Chez les Japonais, j'ai toujours l'impression que la politesse et l'émotion se confondent. Chez nous, n'est-ce pas, quand il y avait une pratique sociale de la politesse, non, il y a des pratiques, il reste sans doute des pratiques individuelles de la politesse, mais on ne peut plus dire qu'il y ait une pratique sociale de la politesse. Eh bien, quand il y avait chez nous une pratique sociale de la politesse, qui était peut-être une pratique de classe, je n'en sais rien, mais la politesse occidentale est en général une politesse qui est argumenté par une certaine froideur, une certaine distance, un certain quant à soi, et précisément une absence d'émotion. L'émotion, en Occident, est impolie. Elle est considérée comme impolie. Eh bien, là-bas, pas du tout. Mais parce que c'est une émotion très, très ténue. Il y a dans la voix, par exemple, si on les écoute sans les comprendre, une légère précipitation, un petit peu enfantine du débit, de très nombreuses marques d'approbation. Vous savez que c'est une langue très phatique, c'est-à-dire qui multiplie les mots de contact, les mots d'acquiescement, les n'est-ce pas, si vous voulez. Enfin, chez nous, si quelqu'un emploie trop souvent n'est-ce pas, on va lui dire que c'est un tic. Et on va lui dire l'être pour lui dire qu'il emploie. N'est-ce pas? Pas du tout là-bas, ça fait partie de la langue parce que ça maintient le contact. Et si vous regardez les visages, vous ne voyez pas à proprement parler une mimique des traits. Bah, il n'y a pas de mimique japonaise au sens grossier du terme. Mais vous allez remarquer cette chose qui m'a toujours bouleversé au Japon, qui est l'extrême expressivité des yeux. Les yeux, ces yeux qu'on dit bridés, donc dont nous pourrions penser qu'on en voit en quelque sorte moins que
chez les Nantos. Eh bien, en réalité, ils emplissent tout le visage et ils deviennent une sorte de moire très fragile. Et ça, ça n'est pas une histoire. C'est peut-être subjectif, mais ça n'est pas une histoire dans la mesure où vous pouvez le voir dans les films japonais. Regardez bien les visages d'actrices, les visages de femmes. C'est surtout sur les visages de femmes que ça se voit. Et les femmes souvent un peu mûres, qui ont des rôles d'actrices un peu mûres, vous verrez l'extrême mobilité, l'espèce de pathétique souvent très déchirant, qui est à même le regard. Enfin, non pas en tant qu'il est intentionnel, mais je dirais plus à même les yeux que le regard. C'est ça qu'il y a de très beau. Alors, donc, ténuité et concentration dans l'émotion japonaise, concentration ténue de l'émotion. Et Valérie, qui a préfacé, il y a bien sûr très longtemps, un livre d'une japonaise dont j'ai d'ailleurs extrait certains haïkus, qui était Kiku Yamata, je vous donnais dans ma bibliographie, dans ce petit avant-propos, a dit, je crois très justement, ceci: les poètes de l'Extrême-Orient, naturellement, il pensait au haïku, les poètes de l'Extrême-Orient semblent passer maître dans l'art de réduire à son essence le plaisir infini d'être ému. C'est très beau. L'essence, la pureté de l'affect, c'est ça le haïku. Et ici, il se produit une sorte de paradoxe qui va m'introduire à une digression que je ne ferai pas aujourd'hui, qui est que, dont j'annonce tout de suite la couleur, qui est le plus humain, c'est-à-dire l'humanité en ce qu'elle a de plus déchirant, rejoint ce qui est réputé être le moins humain, à savoir la plante et l'animal. Et je voudrais donc samedi prochain commencer par digresser un peu sur l'affect des animaux. Thank you.